C'est l'heure de notre revue de presse chrétienne qui, à quelques jours de la Semaine Sainte, nous parle de passion et de souffrance, Marie-Pierre.
Souffrance et passion du Christ. Guidée par les évangiles et aidée par des spécialistes, alors des historiens et des médecins, le magazine Famille Chrétienne tente de décrire de façon aussi scientifique que possible les souffrances de Jésus durant sa passion. C'est un supplice épouvantable, souffle à propos de la flagellation l'historien Cyriaque Seller. Il explique que l'instrument utilisé est un flagrum romain composé de deux lanières au bout desquelles se trouvent deux billes métalliques. Cet instrument entraîne des lésions corporelles extrêmement importantes, c'est ce que souligne le cardiologue Christian Brouet, auteur de plusieurs articles scientifiques sur la mort du Christ. Alors, ces descriptions historiques et médicales que vous irez lire dans les colonnes du magazine Famille Chrétienne constituent un premier degré de lecture. Par le biais de méditation, le frère Renaud Silly, dominicain, exégète de renom, en propose un second, bien plus spirituel. En d'autres mots, je vous dirais que sans pour autant tomber dans une vision doloriste, les différents intervenants nous permettent de saisir pleinement le don total du Christ, la grandeur de ce sacrifice. Regarder en face cette douleur, c'est refuser de minimiser l'amour immense qui s'y exprime, rappelle le théologien Jean-Louis Souletier.
Et pourtant, aujourd'hui, souffrance et violence de tout ordre font partie de notre monde.
Mais oui, Jonathan, partout les conflits explosent ou couvent sous des braises et à tout moment, elles peuvent embraser le monde entier. Partout sur notre terre, des innocents meurent dans une plus ou moins grande indifférence. Pourtant, comme l'écrit Pierre Jovat dans le grand reportage du magazine La Vie, en Syrie, la vie revient petit à petit. Dévasté par 14 années de guerre civile, le pays émerge d'un demi-siècle de dictature et redécouvre la liberté. Mais quelle sera la place des chrétiens dans ce pays martyrisé? Saignés par l'émigration, terrifiés par l'islamisme, sont-ils menacés de disparition? En dépit de leur petit nombre, ils veulent garder espoir dans ce pays où l'apôtre Paul a rencontré le Christ. Le chemin de Damas, vous vous souvenez? À Damas, justement, devant la maison de Saint-Ananie, là où l'avorton de Dieu fut baptisé et guéri de son aveuglement, notre confrère s'interroge. De quel côté va basculer la Syrie? L'espoir est-il permis? Dehors, dans la capitale, embaumée par le jasmin et les orangers, écrit Pierre Jovat, les cloches sonnent. Et de nous rappeler ce passage de Paul aux Corinthiens. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Voyage dans un pays sur une ligne de crête, un reportage de Pierre Jovat à découvrir, je vous le conseille vivement, dans La Vie de cette semaine.
Et au Liban, 35 ans après la fin de la guerre, chrétiens et musulmans cherchent toujours un récit commun à leur histoire.
Oui, mais comment l'enseigner alors que le pays ne dispose toujours pas de manuel d'histoire unifié qui aborderait son histoire contemporaine? Au collège Notre-Dame de Jambourg, en périphérie de Beyrouth, la professeure d'histoire et chercheuse Dina de Klerk fait face aux élèves et au micro de Thomas Abkral, l'envoyé spécial de La Vie à Beyrouth. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses que les Libanais ont en commun dans le conflit plutôt que de celles qui divisent. C'est ainsi que la professeure commence. C'est la première fois qu'on nous parle de la guerre en classe. D'habitude, ce sont nos grands-parents qui nous la racontent. Il faudrait que tous les Libanais apprennent la même histoire pour ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est ce que pense Ellie, un lycéen de 16 ans. Sa camarade Lynn est d'un avis différent. Pour elle, la guerre civile est bien trop récente. Elle ne peut pas être étudiée en cours. Il faudra attendre longtemps, longtemps encore, avant de regarder objectivement les faits historiques. Nombre de personnes qui ont vécu la guerre sont toujours vivantes et ça pourrait les blesser.
Maurice de la Pentière, lui, a mis du temps, près de 20 ans, avant de parler et de réaliser son chemin de croix du bon larron.
Et c'est dans Famille Chrétienne, sous la plume d'Antoine-Marie Isoard, que je découvre cet artiste hors du commun, rescapé de Buchenwald et de Dora, et qui, pour résister à la barbarie nazie, pour témoigner de ce qu'il avait vécu dans l'univers concentrationnaire, usa de tout son talent de dessinateur, sa seule arme. Dès son retour en 1945, Il dessine une série de la vie à l'encre de Chine pour raconter la vie quotidienne des camps. La violence des capots, l'humiliation des gardes-chaumes, la cheminée fumante des fours crématoires. Mais c'est seulement dans les années 70 du XXe siècle qu'il réalise son chemin de croix du bon larron. Des esquisses dans lesquelles il associe la passion du Christ à la souffrance des déportés des camps de concentration nazis. Dans ses dessins, à la limite parfois de l'insoutenable, se révèle toute la profondeur spirituelle d'un homme dont la réflexion est un long cheminement des ténèbres à la lumière. Ce poignant parallèle entre les souffrances des déportés et les souffrances infligées au Christ saute aux yeux dans Lecce Homo. Vous irez le regarder en face. L'esquisse représente un déporté famélique, au regard vide. Il tient à peine debout entre les baraquements du camp et un mirador. Et en premier plan, au niveau du visage, des fils de fer barbelés lui tressent comme une couronne d'épines. Le chemin du croix du bon larron, 80 ans après la libération du camp de Dora, le 11 avril 1945, est exposé jusqu'au 25 avril de cette année 2025, au passage Sainte-Croix à Nantes.
Et 80 ans après son assassinat par le régime nazi, le pasteur résistant allemand Dietrich Bonhoeffer fait la couverture de la croix hebdo.
Et demeure une boussole aujourd'hui dans un monde qui renoue avec la tentation nationaliste et également pour une église qui cherche sa place dans une société sécularisée. Si dans le monde protestant, la notoriété du pasteur est immense, les jeunes générations, y compris chrétiennes, connaissent peu celui que l'on surnomme le saint protestant. Récupéré parfois aujourd'hui par une frange de l'extrême droite et notamment aux États-Unis, Élodie Moreau, notre consoeur de la Croix Hebdo, insiste sur l'importance et la nécessité de ressaisir la cohérence de vie et de pensée du pasteur et théologien allemand. Elle explique en quoi son engagement peut nourrir notre réflexion et nos choix 80 ans après. Je vous renvoie à cet édifiant dossier de la Croix Hebdo et terminerai avec les mots de Bruno Bouvet, son rédacteur en chef. La cohérence de vie de Dietrich Bonhoeffer est de celles qui peuvent nous guider aujourd'hui.